La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Claude Monet a vu le jour en 1840 à Paris, dans une famille de la bourgeoisie. Son père était ce qu'on appelait alors un propriétaire. Jusqu'à sa mort le 5 décembre 1926 à Giverny, il poursuivra sa quête artistique, l'approfondissement d'un travail sur la représentation de la lumière et de ses reflets à diverses heures du jour, mais aussi de l'air et de l'atmosphère qui sont tout autant ses sujets. Sa vie, nous en avons parlé lundi avec Pascal Bonafou. Lors de notre premier épisode, il est à retrouver, comme tous les autres, sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Pas de période à proprement parler dans l'œuvre de ce peintre, mais des moments différents. Celui d'Argenteuil et du bateau atelier, celui des séries sur le motif des meules, des peupliers ou de la cathédrale de Rouen. Et puis différents moments que Marianne Alphand nous a détaillés au cours de l'émission d'hier. Enfin demain, pour notre dernier épisode, nous nous intéresserons plus largement au courant impressionniste en tâchant d'en démêler les différentes sources. C'est Valérie Mettet qui sera dans ce studio pour nous expliquer tout cela. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler des nymphéas et de leur réception par des artistes non figuratifs américains, nous sommes avec Cécile Debray, directrice du musée de l'Orangerie à Paris, où sont exposées ces nymphéas et où elle a organisé en 2018 une exposition qui couplait justement les deux thèmes que je viens d'évoquer. Elle a aussi édité en 2020 chez Azan un ouvrage sur cette œuvre monumentale et testamentaire entre décor et installation, impressionnisme et abstraction ornementale. Bienvenue à tous, c'est la Compagnie des œuvres.
J'ai mis du temps à comprendre mes nymphéas. Je les avais plantés pour le plaisir, je les cultivais sans songer à les peindre. Et puis tout à coup, j'ai eu la révélation des féeries de mon étang. J'ai pris ma palette. Depuis ce temps, je n'ai guère eu d'autres modèles. L'idée m'est venue d'employer à la décoration d'un salon ce thème des nymphéas. Transporté le long des murs, enveloppant toutes les parois de son unité, il aurait procuré l'illusion d'un tout sans fin, d'une onde sans horizon et sans rivage. Les nerfs surmenés par le travail se seraient détendus là, selon l'exemple reposant de ces eaux stagnantes. Et à qui l'eût habité, cette pièce aurait offert l'asile d'une méditation possible au centre d'un aquarium fleuri.
À propos de Claude Monet, cité dans un article de la Gazette des Beaux-Arts en 1900. Bonjour à vous, Cécile Debray.
Bonjour.
Ce qu'on entend dans cette archive, c'est qu'au départ, quand il plante ses nymphéas, c'est pas tellement dans l'idée de les peindre, c'est surtout dans l'idée, je sais pas si on peut dire, de faire du jardinage, mais enfin, en tous les cas, de les cultiver pour son plaisir.
Alors ça, c'est difficile de répondre à cette question. Moi, j'y vois plutôt quand même un projet qui se construit progressivement, qui se concrétise. Évidemment, c'est une histoire très très longue, très un peu chaotique, hein, parce qu'il va y avoir la guerre, il va y avoir des disparitions, la constitution d'un jardin avec l'achat de parcelles de terre.
Donc il plante pour faire un décor dont il a l'intention de faire un sujet pour sa peinture.
En tout cas, c'est comme ça que ce jardin a été vécu par Monet les au moins les 10 dernières années de sa vie. Donc
parce qu'il avait besoin d'avoir près de lui, tout près de lui, un paysage pour apprendre à le comprendre. On entend dans cette archive qu'il dit, ce sont des propos rapportés, j'ai mis longtemps à comprendre mes nymphéas. Qu'est-ce que ça peut bien signifier exactement ça, Cécile Debray ?
Alors, il semblerait que, en fait, cette œuvre des nymphéas constitue à la fois une sorte d'aboutissement de son œuvre, mais qu'il y a été mené de façon presque inconsciente. Il y a beaucoup d'automatisme dans son écriture, en reprenant un terme qui est plutôt rattaché au surréalisme. Il y a beaucoup de tâtonnements, d'intuitions. Et donc quand il plante ses nymphéas, c'est quand même très très intéressant de voir qu'il va faire un jardin d'eau. Il va planter des herbes dans l'eau en quelque sorte. Et il a souvent dit que sa peinture, les sujets qui l'intéressaient beaucoup dans ses séries, en fait, sont liés à cette tentative de capter en fait le reflet du soleil sur l'eau et le jeu des herbes dans l'eau. Donc, il va vraiment constituer, créer son motif en créant son jardin et particulièrement en creusant ce bassin des nymphéas.
Et pour cela, pour voir ses reflets sur l'eau, il est capable de s'installer silencieux au bord de son étang et de passer des heures à simplement le regarder.
Alors oui, il y a eu tout le long de la constitution de ce jardin, puisque il commence à peu près au début du siècle à constituer ce bassin. On sait qu'il y a 7-8 ans pendant lesquels il ne peint pas, donc il a dû évidemment être méditatif face à ce jardin, face à ses plantes. Et puis on sait également que il va pendant qu'il fait ses très grandes décorations, ces très grands tableaux en atelier, bien sûr, il va quand même réaliser des esquisses peintes ou dessinées sur le motif. Donc on imagine bien un Monet contemplatif, scrutant l'onde, regardant finalement le passage des saisons.
Et prenant comme des notes.
Voilà, les heures de la journée, essayant d'être au plus près en fait de ces variations qui n'ont cessé de le fasciner.
Du 15 au 25, mettre les dahlias en végétation sur couche. Bouturer avant mon retour ceux qui sortiront. Pensez aux bulbes de lys. Si les pivoines arrivent, les mettre de suite en place si le temps le permet, en ayant bien soin d'abriter pendant les premiers temps les bourgeons du froid comme de l'ardeur du soleil. S'occuper de la taille, les rosiers pas trop longs, sauf les variétés épineuses. En mars, semer les gazons, bouturer les petites capucines, avoir bien soin dans la serre du gloxinia, des orchidées, ainsi que des plantes sous châssis.
Une lettre à son jardinier, donc on sent quand même que Claude Monet vérifie les choses d'assez près. Quelle serait l'inspiration de ce jardin ? Il y a le pont japonais, évidemment, qui fait penser à l'Extrême-Orient, mais est-ce qu'on peut y voir un lieu, par exemple, une géographie, ou pas du tout, Cécile Debray ?
Oui, certainement. D'abord, le jardin, il y a une sorte de vogue pour le jardinage, pour les plantes rares, les fleurs. À la fin du siècle, on pense aux fabuleuses descriptions par Huysmans dans À rebours, de ces jardins noirs. Donc, il y a une fascination pour le végétal qui est très souvent associé à la ligne et au décor dans la culture symboliste.
Et qu'on retrouve dans l'art nouveau aussi.
Absolument,
architecturalement,
voilà.
Galerie, au tournant du siècle, il y a beaucoup de fleurs, de plantes dans ces formes-là.
Tout à fait. Donc il y a cette inspiration liée au jardinage. Et chez Monet, ce qui est assez intéressant, c'est que évidemment, il est très intéressé par les estampes japonaises, par la culture japonaise, et donc aussi par cette idée de créer une sorte de microcosme, un petit monde miniature dans son jardin. Et quand vous regardez un petit peu ce jardin de Giverny, qui est en fait construit entre le jardin côté maison et le bassin des nymphéas de l'autre côté de la route et du chemin de fer.
Parce qu'il va s'étendre au fur et à mesure en achetant des parcelles.
Voilà, il s'étend, mais il a une partie en fait très cultivée, très ordonnée. Ceci dit, avec quand même un foisonnement de rosiers un peu sauvage, mais la partie plus sauvage et les plus naturelles ou faussement naturelles, et évidemment du côté du bassin des Nymphéas, où l'on perçoit également une rangée de peupliers au loin. Donc il y a presque une sorte de somme de l'ensemble de ces peintures ou de ces séries qu'il a pu réaliser. Et là, Monet s'installe en fait et souhaite non plus attraper ou capter des sites, mais vraiment presque se confronter au motif qui va devenir une sorte de motif totalement englobant. Il est comme absorbé par la nature.
Il vit dans le motif, c'est ça qui est
incroyable. Voilà, et donc d'où l'évolution dans sa peinture vers quelque chose de certainement plus radical ou plus absolu, où le jardin devient peinture, le jardin motif devient abstraction, et on a cette sorte d'échange comme ça presque organique, hein, entre le coup de pinceau et la liane de la glycine ou du saule.
Alors en 1910, Cécile Debray, il y a une crue, comme d'ailleurs à Paris, c'est la même, qui dévaste un petit peu ce jardin. C'est évidemment très dur à vivre pour Monet, on l'imagine. Ça, il ne l'a pas peint, ça ne l'a pas intéressé, les reflets sur l'inondation, ça n'existe pas.
Alors, bien avant, il a souvent peint les débâcles, les crues. Il y a plusieurs tableaux de sa période impressionniste sur cet aspect ravageur de l'eau, hein. Mais ces années, en fait, ces années qui sont entre les années 1909, c'est-à-dire quand il rentre de Venise et la guerre, sont des années dramatiques pour Monet, hein. Et donc cette crue, elle représente, je dirais, une sorte de malheur qui s'abat sur Monet, la perte de sa femme, de son fils Jean, la cataracte qui commence, etc.
Ça se retrouve dans les toiles ou pas du tout? Est-ce qu'on peut lire l'état d'esprit de Monet dans ses toiles?
Alors, beaucoup ont lu, mais bien après. C'est pour ça que la réception des Nymphéas, elle est complexe. C'est que bien après, c'est-à-dire dans les années 20, quand les Nymphéas ont été enfin parachevés, installés dans l'orangerie, certains y ont vu une sorte de peinture très angoissante qui évoquait à la fois le chaos des années de guerre, c'est-à-dire un paysage totalement laissé presque à l'abandon, c'est-à-dire qui n'est pas ordonné par la vue perspectiviste humaine, rassurante et maîtrisable, par son, je dirais, son cette veine ornementale qu'on pourrait aussi, par la tonalité mauve rose de sa palette, qu'on pourrait rattacher à l'Art nouveau. C'est un mouvement qui joue beaucoup sur l'organicité, sur aussi une forme de décadence, et qui dans les années 20 semblait insupportable et totalement démodé.
C'est vrai qu'on peut se sentir absorbé aussi à l'orangerie. Oui. Par cette pièce qui a pour effet finalement à la fois de vous immerger mais aussi de vous noyer.
Oui, c'est cette image de l'aquarium qui est une image très ambivalente, hein, qui peut être aussi un monde sous-marin mais aussi une forme de tombeau. Et curieusement, et c'est très intéressant de voir comment une œuvre est lue en fonction des époques, mais vraiment au sortir de la guerre, c'est quelque chose qui était absolument insupportable.
Alors aussi, très intéressant est le nombre de toiles que Monet va réaliser sur ce motif-là. 450 tableaux entre 1900 et 1926. Alors, ça représente comme ça, en valeur absolue, évidemment énormément de toiles, mais en proportion de tout ce qu'il peint, c'est 75%, Cécile Debray.
Oui, c'est vraiment ça devient un motif obsessionnel, mais c'est aussi sa vie. C'est-à-dire qu'il faut imaginer quand même un homme âgé qui ne va plus entreprendre de voyage. Le dernier a été celui de Venise et qui donc s'installe, je veux dire, dans son jardin. On a souvent utilisé l'image de Prospero, le magicien, qui a créé son propre monde pour en faire justement son monde de peinture ou son espace mental. Et donc la peu à peu, en fait, les panneaux des nymphéas viennent absorber toute son œuvre. Hein, et c'est vraiment une forme d'aboutissement et de résolution, en fait, de ce qu'il a cherché toute sa vie.
Monet avait fait son jardin dont la plus importante partie était un étang de nymphéas. La bordure d'une grande prairie avec dérivation d'une branche de lepte avait fourni l'étendue nécessaire et Monet y avait apporté l'ardeur d'une imagination résolue. Bientôt, les succès d'horticulture dépassèrent toutes les espérances. Les indifférents même venaient s'émerveiller au miracle, ne fût-ce que pour dire « J'ai vu le jardin de Monet ». Le jardin de Monet compte parmi ses œuvres, réalisant le charme d'une adaptation de la nature aux travaux du peintre de la lumière, un prolongement d'atelier en plein air avec des palettes de couleurs profusément répandues de toutes parts pour les gymnastiques de l'œil au travers des appétits de vibration dont une rétine fiévreuse attend des joies jamais apaisées.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et cet extrait d'un texte de Clémenceau sur le jardin de Monet, lu par Sacha Guitry, Clémenceau le tigre, comme on l'appelle, qui est un grand admirateur de Monet et des nymphéas. Il y a toute une histoire qu'on va raconter avec vous, Cécile Debray, entre ces deux hommes. On peut d'ailleurs peut-être commencer en faisant un lien entre les nymphéas et l'affaire Dreyfus, parce que c'est finalement sur cette affaire Dreyfus que les deux se rencontrent.
Oui, oui, c'est assez passionnant cette période parce que l'affaire Dreyfus a divisé tout autant la France que également le monde artistique. Et donc, quand Renoir était plutôt un Dreyfusard, Monet était un anti-Dreyfusard convaincu. Hein,
Oui, c'est plutôt l'inverse.
C'est l'inverse, excusez-moi. Non. Monet est absolument un Dreyfusard convaincu et donc des amitiés profondes vont éclater hein, sur cette exploser en tout cas sur cette affaire et Monet va être terriblement affecté hein, par ce
de
climat
la perte de ses amis du coup sur ce sujet-là.
Oui, par la perte de ses amis, par aussi une sorte de je pense de constat d'une faillite française. Il y a quand même toute une réflexion sur ce qu'est la culture française, la politique française, et de manière très intéressante. Et c'est beaucoup les historiens américains qui l'ont montré. Quand Monet va entreprendre ses premiers tableaux de nymphéas, qui n'ont rien à voir avec les grandes décorations, hein, mais qui sont des tableaux très très enlevés, avec une touche très libre, on y voit en fait une sorte d'affirmation, de retour même à son style impressionniste des années 70, comme une sorte de marqueur d'un art français. Comme s'il pouvait incarner un art français, je dirais avec toute sa dignité hein, et des valeurs républicaines, de probité. Donc il y a une
et
lecture...
par ailleurs un style aussi parce que c'est vrai que Monet c'est un style français d'une espèce de légèreté qu'on trouve chez Debussy, qu'on retrouve aussi peut-être chez Matisse. On en parlera tout à l'heure, Cécile Debray.
Oui, bien sûr, oui. Mais c'est aussi, et vous en parlerez sans doute demain, c'est que l'impressionnisme, le mouvement, est vraiment associé évidemment au site français, à une campagne française, à des monuments français. Et c'est vraiment autour de 1900 que se cristallise en fait cette idée d'un art français associé à l'impressionnisme. C'est le moment où l'impressionnisme commence à être vraiment une valeur sur le marché de l'art, etc. Et donc Monet va incarner cela avec ses nymphéas en occupant cette position de défense de Dreyfus pour la réhabilitation de Dreyfus. Il est absolument admiratif du geste de Zola et c'est là-dessus évidemment qu'il noue une amitié indéfectible avec Clémenceau.
Qui est engagé évidemment depuis des années et des années aux côtés de Dreyfus et donc il admire beaucoup cet engagement de Clémenceau, oui. Alors que dans le même temps, Clémenceau admire le peintre qu'est Monet.
Oui, alors c'est une amitié qui, heureusement, dont on a le témoignage par les échanges de courriers. On a publié la correspondance entre Monet et Clémenceau, qui est très savoureuse, très très émouvante. Les deux finalement mènent un combat, un combat politique, et Monet, grâce, je dirais, aux mots de Clémenceau, peut presque imaginer son travail de peintre comme celui d'un combat aussi, comme une sorte d'engagement vital. Et je pense que Clémenceau a beaucoup contribué à cette vision, à cette ambition presque existentielle par rapport à la peinture.
Il y a aussi une peinture donc française qui réparerait le corps social français après la Première Guerre mondiale et après aussi les divisions de l'affaire Dreyfus.
Alors voilà, bon, là on va un peu rapidement, mais effectivement le projet des Nymphéas va en fait se concrétiser sur l'idée de célébrer la paix, mais en fait c'est vraiment une proposition de Monet qui se sent assez mal, comme beaucoup d'autres Français, et notamment d'artistes, je pense à Matisse, se sent assez coupable d'être
à l'arrière, de travailler sur la beauté alors que les gens se font
que les autres meurent au combat. Voilà, et donc il essaie de par ce geste, en proposant d'offrir donc des panneaux à la France, à l'État, d'en faire un geste de participation à l'armistice.
Dans le miroir de son étang, parmi les lourdes dalles du feuillage aquatique cerné des nuages, sursaute un éclat de pétales, en proreptation de la nuit, d'où surgira tour à tour la flamme des eaux ou la splendeur des apaisements célestes. C'est là que Monet venait chercher l'affinement des sensations les plus aiguës. Pendant des heures, il restait là, sans mouvement, sans voix, dans son fauteuil, fouillant de ses regards, cherchant à lire dans leurs reflets ces dessous des choses éclairées au passage, des lueurs insaisissables où se dérobent les mystères. Le dédain de la parole pour affronter le silence des fugitives harmonies. Voir n'était-ce pas comprendre? Et pour voir, rien que d'apprendre à regarder.
La compagnie des œuvres sur France Culture. Nous sommes avec vous, Cécile Debray, pour parler de Claude Monet et en particulier des Nymphéas, dont on n'a pas tout à fait l'impression qu'il s'agit de peindre un site qui est son jardin. Il zoome à l'intérieur de l'eau ou sur des feuillages. Ça aussi, c'est très nouveau, très très étonnant quand même.
Oui, il y a un saut entre les premiers Nymphéas qu'il peint effectivement comme des décorations, hein, donc pour le début du XXe siècle, la fin du XIXe siècle, la notion de décoration en fait est presque une sorte de premier pas vers l'abstraction, hein. C'est l'idée de l'ornement, donc un ornement qui ne nécessiterait pas la construction d'une image ou d'une narration.
C'est une idée qui est très à la mode aussi, cette idée de décoration à ce moment-là.
Oui, voilà, on peut penser par exemple au tableau de Redon, au décor que les Nabis souhaitaient peindre à cette époque. Enfin, il y a l'Art Nouveau, on en a parlé. Et donc Monet, au début, s'inscrit dans cette veine autour de 1900. Et puis, quand il va reprendre son travail à partir de 1914, et là, en décidant d'affronter son motif à travers des formats extrêmement grands, il se concentre sur ce qu'il avait essayé de tenter de faire quand il était jeune peintre à la fin des années 60, 1860, où il essaie de capter en fait ce thème des reflets de l'eau, un paysage.
Comme il le faisait à Argenteuil sur sa barque.
Oui, Argenteuil ou les bains de la Grenouillère ou les.
Qu'est-ce que c'est les bains de la Grenouillère?
Les Bains de la Grenouillère, c'était une guinguette hein, sur les bords de Seine et qu'il est allé peindre en 1869 avec son ami Renoir. Et on garde une correspondance qu'il a avec Basile, qui lui était resté, dans le Midi. Et donc, il raconte ces jours de peinture chevalet contre chevalet avec Renoir. Et en fait, à cette époque, ils avaient l'idée de peindre une sorte de panorama de cette baignade en plein air, donc en pleine nature. Il faut imaginer les guinguettes avec des sortes de praticables et les baigneurs qui plongeaient dans le fleuve. Et donc le projet initial était de faire en fait une très grande peinture.
Et un panoramique fermé comme
ça? Non, un panoramique plutôt dans l'idée d'un long
très
panneau, un peu comme les panneaux des nymphéas, mais qui permettait d'avoir à la fois le panorama de la rive et dans la taille d'une peinture d'histoire, ce paysage extrêmement moderne parce qu'il y avait des baigneurs, donc c'est un motif avec une guinguette, un motif lié à la vie contemporaine, des baigneurs contemporains, c'est-à-dire habillés avec un maillot de bain. Et donc pour cela, traiter ce paysage moderne pour Monet et Renoir nécessitait de garder cette forme de vivacité et de spontanéité de la touche par une gestualité très grande. Évidemment, cette audace ne pouvait pas être lisible à l'époque et donc ça s'est achevé sur un sentiment d'échec. Et on peut, c'est en tout cas mon hypothèse, que ces nymphéas, ces immenses nymphéas, sont finalement la clé d'une résolution, d'un rêve très ancien pour Monet.
C'est d'ailleurs comme ça que vous avez appelé le texte que vous avez donné dans le livre Les Nymphéas de Monet. Vous faites référence à la nouvelle jeunesse, au fond, que seraient pour Claude Monet ces nymphéas.
Oui, alors c'est peut-être une vision un peu romantique, mais je suis assez convaincue que Monet, en réalisant enfin ces grandes peintures de paysages à un format extrêmement monumental, venait en fait réaliser un rêve qu'il avait depuis longtemps. Et c'est souvent le propre des grandes œuvres, en fait, que cette obsession qui habite tout au long d'un parcours un artiste et qui va pouvoir, au prix d'un énorme effort, hein, il faut lire ses lettres. Quand Monet travaille sur ses nymphéas, les 10 dernières années de sa vie, il combat la vieillesse, il combat sa vision qui est en train de dégénérer par le vieillissement de la cornée. Et il va, au prix de cet effort extrême, réaliser enfin ce qu'il a toujours souhaité faire.
Mais alors, pour réaliser ce rêve, Cécile Debray, il faut un très grand espace. Et c'est pour ça que Claude Monet va faire construire un bâtiment, une espèce de hangar qu'il trouve d'ailleurs très, très laid, et qui va devenir son grand atelier. Est-ce qu'il est destiné justement à ces compositions des nymphéas? C'est pour ça qu'il le fait construire?
Alors oui, dès 1916, quand il prend la résolution de peindre ces très grands panneaux et surtout de réaliser un ensemble pour l'État, pour faire un don, il va se faire construire une sorte de hangar avec lumière zénitale, mais surtout extrêmement grand et dans des matériaux très rapides à monter, en plein cœur de ce jardin chéri et si raffiné. Et
quand même un petit peu excentré, il est un petit peu caché.
Un peu excentré, mais je trouve que c'est très... C'est très symbolique. Je reviens à votre question du début, c'est-à-dire que finalement, peu importe d'abîmer ce jardin, ce qui l'importe, c'est plutôt la peinture, en fait.
Donc, la réalité compte moins, évidemment, que la fiction. On écoute une archive lue par Lara Brühl de propos sur les nymphéas de Claude Monet, suivie par une lettre toujours de Clémenceau. Elle date de novembre 1918.
Un moment, la tentation m'est venue d'employer à la décoration d'un salon ce thème des nymphéas. Transporté le long des murs, enveloppant toutes les parois de son unité, il aurait procuré l'illusion d'un tout sans fin, d'une onde sans horizon et sans rivage. Cher et grand ami, je suis à la veille de terminer deux panneaux décoratifs que je veux signer le jour de la victoire et viens vous demander de les offrir à l'État par votre intermédiaire. C'est peu de choses, mais c'est la seule manière que j'ai de prendre part à la victoire. Je désire que ces panneaux soient placés au musée des arts décoratifs et serais heureux qu'ils soient choisis par vous. Je vous admire et vous embrasse de tout mon cœur. Claude Monet.
Compagnie des œuvres sur France Culture. Comment ça se passe alors, Cécile Debray, ce passage à la donation des nymphéas, je dis des nymphéas, mais enfin il y en a beaucoup, hein, des nymphéas, de certaines toiles des nymphéas à l'orangerie. Au départ, il est juste question quoi, de deux tableaux seulement ?
Oui, alors, et vous voyez, là, on est en 1918, hein, donc c'est au moment de l'armistice que Monet souhaite offrir ces deux panneaux. Il a commencé, si vous vous souvenez bien, donc il a construit son atelier en 1916, donc ça fait à peine 2 ans. Et en fait, de 1916 à 1926, l'année de sa mort, le projet ne cesse d'évoluer. Mais là, le souhait de faire ce don va évidemment être déterminant dans la conduite de son projet. Et donc, à partir de cette lettre à Clémenceau, l'idée... D'ailleurs, c'est intéressant. Il souhaite que ces deux panneaux soient installés dans un musée des arts décoratifs. Donc, on est encore du côté d'un décor, d'une œuvre décorative.
Mais il n'a pas peur d'être justement relégué au rang d'artiste décoratif.
Voilà, il est assez conscient. Il a toujours été conscient, Monet, que son dernier travail serait très difficile à accepter par ses contemporains. Et ça, c'est étonnant, mais il a toujours su que son œuvre mettrait du temps avant d'être acceptée, avant d'être regardée. Donc,
c'est pour ça qu'il préfère donner ces tableaux-là en particulier, parce qu'il a aussi l'idée que la postérité lointaine s'attacherait à regarder ces tableaux-là, qui sont peut-être pour lui les meilleurs quand même.
Oui, sans doute. Alors, il a toujours été fidèle à son œuvre. Ça aussi, je regarde ça chez d'autres artistes. Je pense à Matisse, c'est également un artiste sur lequel je travaille beaucoup, et je suis toujours fascinée de voir ces grands artistes qui restent en fait fidèles à l'ensemble de leur œuvre. Il n'y a pas de reniement d'une part ou
c'est une
la preuve, puisque quand il souhaite donner les nymphéas, il demande en échange que l'État achète ses femmes au jardin. Femmes au jardin, une toile de 1867, donc très du tout jeune Monet. Donc on a vraiment là les deux bouts de la chaîne qui sont réunis, et comme je vous le disais, c'est sans doute une des œuvres matricielles, hein, pour les nymphéas. Donc quand il exprime ce souhait, peu à peu son projet, lui enfermé dans son jardin, presque hors du monde, hein, regardant assez peu ce qui se passe en art autour, c'est-à-dire on a déjà dépassé le cubisme, hein, il faut imaginer, c'est une œuvre du XXe siècle et j'aime beaucoup le rappeler, hein, régulièrement. Et donc il va commencer à élaborer en fait l'idée d'un espace, presque une installation de peinture. Il va d'abord penser avec Clémenceau et le directeur des Beaux-Arts, ils vont d'abord penser à plusieurs sites, le musée Rodin, donc puisque Rodin avec Monet, faisaient figure des deux patriarches de l'art français et ont souvent été érigés comme emblématiques de l'art français. Donc ils pensent à un bâtiment neuf dans l'hôtel Biron, dans le jardin de l'hôtel Biron. Ensuite, on imagine peut-être le jeu de paume et finalement on choisit l'orangerie des Tuileries.
Du jeu de paume.
Voilà, et donc il va dessiner lui-même, avec l'aide d'un architecte évidemment, mais ce motif des deux salles ovales accolées qui forment une sorte de signe de l'infini en fait, et va réaliser en fait les peintures, il les choisit de manière très minutieuse sur effectivement une production de plus de 300 panneaux.
Mais comment on passe de l'idée de deux tableaux finalement, combien y a-t-il de panneaux à l'orangerie ?
Il y en a plus d'une vingtaine.
Voilà, plus que ce que Clémenceau espérait.
Oui, je pense que la clé, c'est vraiment, il parlait d'abord de panneaux décoratifs qui pouvaient tenir seuls, à un espace. Et ça, c'est très intéressant, et c'est ce qu'ont vu beaucoup les artistes des années 50, c'est que les nymphéas de Monet, c'est en quelque sorte la première installation d'art contemporain. Puisque c'est un espace qui reçoit... Qui montre les panneaux des nymphéas sans aucune autre fonction.
Donc, c'est un espace très immersif, donc il y a un rapport à l'œuvre qui est tout à fait nouveau.
Et qui est totalement dédié à ces panneaux.
Oui. Alors évidemment, la critique, comme prévu, ne comprend pas très bien au départ. André Lhote oppose Poussin à Monet, dit que son époque ne peut engendrer que des génies mutilés. Lionello Venturi, historien de l'impressionnisme, parle de la plus grave erreur commise par Monet. Et Alexandre Benoît voit dans les nymphéas un décor de cabine-salon des paquebots. Donc le côté décoratif quand même passe mal au début.
Oui, il passe mal. Je pense que quand on évoque Monet dans les années 20, on évoque le Monet des petites toiles impressionnistes des années 70, le chant de Coquelicot, la robe verte de Camille, enfin ces tableaux qui deviennent des sortes d'œuvres emblématiques de l'art français. Et évidemment que ces panneaux abstraits, aux formes dilatées, très peu reconnaissables, sont beaucoup trop chaotique et informe, parce que je crois que c'est vraiment le terme, c'est le fait que ce soit informe, qui ne pouvait que déplaire à une période d'après-guerre où, en fait, on est en plein retour du classicisme, du néoclassicisme,
même chez Picasso,
du dessin, même chez Picasso. Et donc, cette peinture informe ne pouvait être regardée.
Donc, Monet est au purgatoire au moment de l'inauguration. Il est d'ailleurs mort depuis quelques mois. Il n'a jamais vraiment pu voir ses tableaux in situ. Mais il a quand même, jusqu'à la fin, maîtrisé absolument la présentation. Donc on peut considérer que la façon dont on voit aujourd'hui les nymphéas, c'est vraiment la façon dont Monet souhaitait qu'on les voit.
Oui, Monet a vraiment agencé, préparé la maquette de l'installation à l'orangerie. La seule chose, c'est qu'il n'arrivait pas en fait à se détacher de ses panneaux. Il a sans cesse.
Il en a très peu vendu d'ailleurs pendant les dernières années de sa vie.
Oui, il a vraiment. D'abord, il a gardé toutes ses œuvres, et puis je pense qu'il voulait vraiment que ce soit son chef-d'œuvre absolu. Et donc, il n'a cessé de le parachever, de le retoucher, etc. Donc, quand les panneaux ont été installés, c'est-à-dire marouflés à même les murs des salles, ça n'a pu être fait qu'après sa disparition, puisque et enfin les œuvres étaient disponibles.
Il n'aurait pas voulu.
Il les retenait. Alors que l'œuvre était finie, mais il les a retenues jusqu'à la fin.
On peut rêver d'un Claude Monet se dirigeant vers l'emploi des grandes nappes claires et diaprées qui furent le fief de Véronèse, de Tiepolo. Ne rêvons plus et considérons son œuvre suprême, les nymphéas. Malgré leur dimension monumentale, elles ne manifestent en rien les caractères de la grande décoration vénitienne ou flamande. Sa disposition d'esprit me paraît être celle d'un grand peintre de chevalet qui décide de donner à sa vision un champ assez vaste pour qu'elle embrasse le monde. Un miroir d'eau suffira pour s'identifier à l'univers. Vision cosmique, aimerais-je dire, si ce mot n'avait été dévié ces dernières saisons et proféré à propos de n'importe qui, de n'importe quoi. Ainsi Michel-Ange, créateur de figures uniques et solitaires, attend le jour où une chapelle vaticane lui permettra de prendre son essor, de montrer sa toute-puissance. C'est pourquoi il me plaît très sérieusement de dire de l'orangerie des Tuileries qu'elle est la Sixtine de l'impressionnisme. Lieu désert au cœur de Paris, comme donnant le sacre de l'inaccessible à la grande œuvre qu'elle recèle, un des sommets du génie français.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et ce texte d'André Masson, paru dans la revue Verve en 1952, est lu ici par Pierre-Marie Baudouin. Il faudra en effet attendre Masson en 1952 pour que Monet passe de ce purgatoire critique à ce qui est quand même aujourd'hui une sorte de paradis critique.
Oui, oui, c'est un très beau texte de Masson qui lui, enfin, cet artiste fait un peu la jonction entre les États-Unis et la France. Il était pendant la guerre à New York avec notamment également les surréalistes, et il a été très lié aux jeunes artistes de l'école de New York, comme on les appelle, les expressionnistes abstraits. Et sans doute que son regard sur Monet a initié ou en tout cas accompagné une sorte de regard tout à fait nouveau sur cette œuvre. Il faut savoir que les nymphéas pendant la Seconde Guerre mondiale ont reçu un obus au moment de la libération, et donc ont été fermés pendant un certain temps et ne réouvrent au public qu'en 1952.
La toile a été un peu abîmée d'ailleurs.
Oui, elle a été restaurée, mais effectivement, c'est même deux toiles qui ont été traversées par un obus, et donc ça a nécessité une restauration de la verrière, voilà, donc ça a été un peu long.
Toujours est-il que Masson fait cet article qui réhabilite donc non seulement les nymphéas, mais essentiellement les nymphéas, disons, et le musée d'art moderne achète des nymphéas, d'autres nymphéas. Et là, ça va être aussi un déclencheur pour la réception aux États-Unis de l'œuvre tardive de Monet.
Oui, alors ça, c'est très intéressant. Là, on l'a étudié assez longuement. C'est-à-dire que après-guerre, en fait, très vite, les toiles des nymphéas qui étaient restées dans l'atelier de Giverny vont commencer à être diffusées dans les galeries, notamment par le fils de Monet, et très vite en Suisse, mais beaucoup aux États-Unis. Ces œuvres extrêmement audacieuses, parce qu'il faut regarder, il y en a quelques-unes au musée Marmottan, mais maintenant il y en a partout dans tous les grands musées d'art moderne, ces œuvres étaient extrêmement radicales et apparaissaient vraiment comme des œuvres abstraites, et rencontraient en fait de manière tout à fait étonnante la création qui était en train de se faire, notamment aux États-Unis, à des échelles qui sont celles de la monumentalité qui est celle des jeunes artistes américains.
Alors on peut en citer quelques-uns, hein, Jackson Pollock, Clifford Steele, Mark Rothko aussi. Qu'est-ce qu'il y a commun entre Rothko et Monet? Quel mot Alors, expliciter ce...
Rothko, c'est vraiment, on pense beaucoup à la chapelle de Houston, c'est-à-dire cet espace qu'il anime par des panneaux, par ces fameuses toiles monochromes.
Une expérience immersive aussi, comme
voilà,
à l'Orangerie.
Qui est une sorte de chapelle qui évidemment trouve un premier acte dans les nymphéas de Monet. Mais peut-être pour revenir un petit peu sur cette question de la réception, parce que Rothko en participe, hein, c'est que le MoMA, en fait, va accompagner le mouvement critique qui consiste à réhabiliter Monet comme une des sources possibles de l'abstraction. Et à cet égard, Clement Greenberg, qui est un des grands critiques de l'époque, va écrire beaucoup de textes pour dire comment, alors qu'il plaçait normalement plutôt Cézanne à la source de ce travail de l'abstraction, il replace donc Monet, et au même moment donc le MoMA achète des grandes toiles de nymphéas pour en quelque sorte légitimer, je dirais, l'école américaine dans une veine historique qu'incarne notamment Monet.
Ah, donc il y a un agenda de légitimation des artistes locaux. Des artistes américains, oui. qui passent par Monet.
Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment comme Paris, l'Europe a été le foyer de la modernité. On sait qu'après-guerre, l'école new-yorkaise, l'école américaine, l'abstraction américaine va regarder avec beaucoup d'intérêt tous les artistes de cette modernité européenne, donc Cézanne, Picasso, mais également Monet, qui est associé en fait aux notions de color field, qui pourrait incarner tout à fait Rothko, hein, que peut incarner Rothko à travers ses toiles.
Alors on écoute ce que Sam Francis, le peintre, disait des nymphéas en les découvrant en 1953. Il était en compagnie du critique d'art Georges Dutuy.
La peinture française m'intéressait beaucoup parce qu'elle est pleine de lumière et de couleurs, si transparente. À la galerie Katia Granoff, je pouvais voir des peintures tardives de Monet. Ces peintures très peu finies, des petites peintures. Je suis finalement allé voir les nymphéas. Giverny était fermé. Monet n'était alors pas considéré comme valant quoi que ce soit. Partout où nous allions pour trouver des Monets, on nous disait « Quoi ? Monet ? Terrible !» Et on pouvait les acheter pour très peu cher. C'était fou. Moi, j'allais les voir parce qu'ils étaient merveilleux, parce qu'ils étaient si libres, presque comme les peintures d'un aveugle. Et Monet, probablement, était aveugle. Toutes les couleurs changeaient tout le temps.
La lecture était signée Pierre-Marie Baudouin. Qu'est-ce que vous en pensez, Cécile Debray, de ce qu'on vient d'entendre, de ce texte de Sam Francis ?
Ah ben Sam Francis, oui, c'est intéressant parce que c'est un artiste qui va s'installer en France avec plusieurs autres comme John Mitchell ou d'autres jeunes artistes américains et qui arrivent juste après la guerre et donc qui finalement révèlent aux yeux des Français leur propre peinture. Et ça, évidemment, ce sont des histoires qu'on a entendues beaucoup, hein, comme parfois il faut sans doute faire le détour de l'étranger pour avoir raison, c'est très étonnant de voir comment la réception d'une œuvre a été aussi aussi subtil, aussi complexe, avec des allers-retours, avec finalement la possibilité, comment dire, il faut faire le détour de l'art contemporain ou de l'art du temps duquel on regarde une œuvre pour en saisir un aspect nouveau. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de construire un peu au Musée de l'Orangerie en essayant de croiser, c'est-à-dire comment cette réception des impressionnistes au XXe siècle a pu susciter des regards nouveaux, une compréhension nouvelle. Et c'est tout l'intérêt de ces croisements, de ces regards.
Et ça se joue beaucoup sur la question du format, parce que les Américains à cette époque-là font déjà des très très grands formats, ce qu'en Europe on ne fait pas. Pas encore, à part justement ces nymphéas. Bon, il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas de cadre aux nymphéas. Et puis, il y a ce qu'on appelle le all-over. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le all-over tel que l'a traité Monet et en quoi ça correspond à ce que faisaient aussi les Américains, les peintres abstraits américains?
Oui, oui, il y a deux aspects. Il y a la manière dont il s'engouffre, je dirais, dans son propre motif, hein. On a parlé de cette sorte d'absorption du motif qui fait que la vision étant de très près, il n'y a plus de repères qui permettent de construire. Donc
il n'y a pas vraiment de perspective, par exemple.
Un horizon, un haut, un bas, une sorte de, je dirais, un cadre un peu rassurant, et surtout plus que rassurant, c'est-à-dire un cadre où la vision humaine dominerait en quelque sorte le motif. Et donc c'est vraiment ce tout sans fin, hein, qui a souvent été rappelé par Monet ou par Clémenceau, qui en fait amène Monet à faire un pur exercice de peinture. Et c'est donc une peinture qui devient autoréférentielle, en fait. C'est-à-dire que quand on se rapproche des nymphéas, on voit le geste du pinceau, le travail de la couleur, les épaisseurs de la touche et parfois les glacis beaucoup plus transparents, etc. Donc il y a déjà une sorte de travail autoréférentiel. C'est une peinture qui devient uniquement une peinture, en fait, qui devient une forme en soi. Et c'est évidemment le premier pas vers tous les formalismes de l'abstraction.
Je finis
juste sur le deuxième aspect. Donc ça, c'est l'aspect vraiment de picturalité pure. Et l'autre aspect, c'est vraiment la question de l'installation que vous évoquiez, c'est-à-dire l'espace. Comment un dispositif spatial va devenir finalement le prototype de ce que serait une installation à la James Turrell ou à la Four Eliasson, etc.
L'espace, et on peut même dire les grands espaces, et c'est là où on pense encore à l'Amérique, où on pense à Emerson, à Thoreau, et des artistes américains ou des critiques ont fait ce parallèle entre des penseurs américains de la nature et l'étoile de Claude Monet, Cécile Debray.
Oui, alors il y a la vastitude, s'il faudrait dire, une sorte d'expérience purement sensorielle, et donc pour faire cette expérience sensorielle il faut pouvoir déambuler, et ça Monet tenait beaucoup au fait qu'il fallait se promener un lieu qui...
Et qu'il n'y ait rien d'autre dans cette pièce que ces
toiles. Voilà, c'est vraiment une destination purement contemplative, sensorielle, en plein cœur de Paris, et ça je pense que Monet y tenait beaucoup, c'est-à-dire...
Donc dans le bruit et l'agitation aussi,
voilà,
de la grande ville.
On est à proximité de la place de la Concorde, alors on est en même temps au bord du fleuve, hein, de la Seine, dans un jardin, mais un jardin extrêmement urbain. Et ce contraste, Monet y tenait beaucoup. Ensuite, effectivement, le fait que ce soit un format très vaste, C'est évidemment ce qui a séduit beaucoup les Américains, parce que bien souvent l'accusation ou la critique des Américains vis-à-vis de l'art européen, c'est que ce sont des œuvres qui sont en général trop petites, oui. Qui sont presque bourgeoises. Là, il y a une sorte de mouvement épique qui est tout à fait intéressant.
Et puis évidemment, il y a l'Amérique, mais il y a le Japon, ce sanctuaire en plein Paris. On n'a pas le temps d'en parler, mais en tous les cas, merci beaucoup Cécile Debray d'être venue aujourd'hui pour évoquer avec nous ces nymphéas que vous connaissez évidemment très très bien, pour les avoir sous la main dans le musée que vous dirigez, c'est-à-dire le musée de l'Orangerie à Paris, qui a rouvert. On peut lire de vous aussi Les Nymphéas de Claude Monet, publié aux éditions Azan.